Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans ce 80e numéro d'En Spectateur, placé sous le signe de la Russie cette semaine, puisque nous parlerons d'une part des trois sœurs qui a été jouée au TNP et d'autre part de la fuite que l'on pouvait voir au Célestin. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, je reçois Rémi, Colline et Juliette. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Alors, on va commencer avec le TNP. Et ceux et celles qui se sont rendus voir à la représentation des trois sœurs. Donc il s'agit, comme me disait Rémi, non pas tellement d'une adaptation, mais plutôt d'une réécriture de Tchekhov. Je vous laisse me dire un petit peu, dans un premier temps, ce que vous en avez pensé.
Alors on commence par celui qui a aimé ou par...
Allez.
Je t'en prie.
Bah alors j'ai aimé.
Merci Rémi.
Non, J'ai souvent beaucoup de mal avec les metteurs en scène qui triturent à ce point un texte. Mais en fait, ça atteignait un stade où ayant fait le deuil du texte et la réécriture étant faite avec, je dirais pas suffisamment de subtilité parce que c'est pas fondamentalement subtil. Mais ça réactualise les choses d'une façon qui fonctionne extrêmement bien et qui malgré tout maintient ce qui fait la beauté et le sel de la pièce de Tchekhov. Ça maintient une structure narrative, une tension entre des personnages et une efficacité du texte, on va dire, qui est restituée par cette transposition dans notre époque actuelle.
D'accord.
Qui fait que ça fonctionne extrêmement bien, et puis faudra revenir sur les mises en scène aussi.
Et on va y revenir. Alors maintenant, je laisse la parole à Juliette qui, elle, t'a jeté des regards très sceptiques pendant toute ta belle tirade.
Non, on va revenir tout de suite sur la mise en scène, puisque c'est le point qui m'a plu et en même temps qui m'a gênée pendant le spectacle, parce que du coup, on a la maison de ces trois sœurs qui est recréée sur le plateau grandeur nature, en fait, quasiment. Et cette maison tourne afin qu'on voit les différentes pièces qui ont, en général, soit des grandes fenêtres, soit des baies vitrées, afin qu'on puisse voir les personnages. Donc c'est très beau, hein, c'est très esthétique, c'est très bien fait, c'est millimétré, c'est voilà. Je trouve simplement qu'on est toujours en dehors à cause de ces baies vitrées, de ces fenêtres, puisque les personnages ont bien sûr des micros qui nous permettent de les entendre. Mais moi je suis tout le temps restée en dehors. Je suis pas entrée dans leur maison, je suis pas entrée dans leur vie, j'ai pas compris leur tristesse, leur nostalgie. Enfin vraiment, je suivais ça de très loin et je trouve qu'on perd justement ce qu'on voulait montrer, c'est-à-dire la nostalgie de cette vie que les trois sœurs pouvaient avoir avant tous les événements qui se produisent devant nous ou pas d'ailleurs, ou qu'elles évoquent. Et après, pour l'actualisation du texte, j'ai pas grand chose à dire, je pense que c'est quelque chose qui est assez à la mode. Des fois j'ai trouvé ça intelligent, des fois beaucoup moins subtil, et ça m'a pas gênée fondamentalement, juste voilà, j'ai pas tellement d'avis là-dessus, j'ai accepté comme ça venait, et c'est plutôt ce fait d'être en dehors qui m'a énormément gênée.
Alors, cette extériorité, c'est peut-être mon côté d'étoile plein les yeux qui ressort, mais je trouve que justement, ce côté du coup très cinématographique, du fait que on est donc face à ce décor qui tourne, on est extérieur à lui, et s'il n'y a pas de montage visuel, il y a quand même un montage sonore par le fait que les micros qui sont amplifiés nous plonge dans une pièce puis dans l'autre et donc auprès de certains personnages puis d'autres, et je trouve que ça utilise un phénomène très cinématographique qui nous place dans une espèce de sentiment d'impuissance face à ce que ces personnages vivent, et si en effet on se retrouve pas plongé au milieu, j'ai l'impression que c'est presque pire, parce que malgré tout l'empathie existe et qu'on n'y est pas, qu'on voit tout ça évoluer de l'extérieur. Il y a une espèce d'effet miroir avec ces vitres qui par la mise à distance, je trouve, fonctionne.
Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais du coup je trouve que je trouve que j'ai pas eu d'empathie spécialement pour ces personnages. À la fin, quand d'un seul coup vraiment tout s'effondre et que Masha puis Irina se mettent à crier, à pleurer, à hurler, j'ai trouvé que ça arrivait un peu... Enfin non, ça n'arrive pas d'un seul coup, mais je trouve que d'un seul coup, c'était énorme, leur réaction, alors qu'on n'avait pas forcément... Enfin, moi, j'avais pas suivi leur parcours à ce point-là, et du coup, vraiment, la fin m'a un peu déboussolée et c'était la cerise sur le gâteau de mon relatif énervement. Enfin non, j'étais pas énervée, j'exagère un peu, mais j'étais plutôt déçue.
Sur l'échelle de Stanislas Nordel,
voilà,
ça va.
C'est exactement ce à quoi j'ai pensé. Mais par contre, quand tu parles de la simultanéité des actions et de la polyphonie des voix qu'on a, je trouve qu'au début, c'est extrêmement bien géré parce que ils parlent un peu tous en même temps, mais on les entend tous et ça nous intéresse un peu partout. On tourne, enfin, du coup, on découvre le décor en suivant les voix et ça, je trouve ça très intéressant. Et je trouve que cette dynamique est un peu perdue au fil du spectacle, même si ça explique aussi partiellement la perte de la vie et de la bonne humeur. Mais je trouve qu'on perd cette idée fondamentale du début qui est justement cette polyphonie des voix et c'est moins exploité sur tout au long du spectacle, je trouve.
Bah alors là aussi de mon côté, enfin comme c'est de l'ordre du ressenti, j'aurais peut-être un petit peu de mal à l'expliquer longuement à nos auditeurs, mais c'est vrai que tant sur sur la question de l'empathie ou me concernant, ça a fonctionné selon des mécanismes que je ne m'explique pas et que je ne vous expliquerai pas complètement.
Très bien.
Et sur cette perte de rythme et peut-être la espèce de diminution de cette dimension chorale qui peut y avoir au début. Là aussi, je l'ai pas perçu. Enfin, j'essaie de réfléchir à voir si j'ai vu ça, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait qu'on perde ça. Il y a un jeu assez constant, enfin, sur le dispositif scénique, dont je comprends qu'on puisse éventuellement se lasser parce que la pièce, il faut le dire, est quand même assez longue, avec un long entracte au milieu. Raison de sécurité à cause de la pyrotechnie, mais j'ai pas eu l'impression d'une perte de rythme, mais au contraire d'une espèce de crescendo qui réussissait à être maintenu tout au long, avec des pauses qui relèvent quand même vraiment du comique et qui sont des mises en danger qui pour moi fonctionnent aussi. À aucun moment j'ai eu l'impression, malgré la mobilisation de certains nombres de gesticulations, de thématiques et de mots qui peuvent être très vulgaires, j'ai jamais eu l'impression qu'on se vautrait dans une espèce de ridicule irréparable, ce qui est quand même le risque dans ce genre de mise en scène, dans ce genre d'adaptation, comme on en voit beaucoup en ce moment. Donc, je maintiens.
D'accord.
Bon, donc chacun persiste et signe sur ses positions. Donc du coup, j'imagine, Rémi, que c'était plutôt une pièce que tu recommandais,
oui.
Contrairement. Et toi, Juliette?
Alors, pour nuancer un tout petit peu ce que je disais, vu ce que tu as dit, Rémi, je la recommande pour le jeu des acteurs, qui effectivement est très bon. Et je trouvais juste qu'il y avait une perte de rythme dans les procédés mis en place au début, avec les micros et les voix. Et par contre, le jeu des acteurs, effectivement, est assez fou. Et Macha en particulier, et l'oncle Roman, oui. Tout ça. Enfin, ils sont globalement très très bons. Voilà. Donc je la recommande pour ça quand même.